Bienvenue sur Story de parents, des histoires de famille de tous horizons. Un podcast parents live impulsé par l'association La Petite Poussée. Retrouvez toutes les vidéos et les podcasts en direct du quotidien, créés par des parents pour des parents sur parentslive.fr. J'ai rencontré Clément lors du vernissage de l'exposition La Place des Pères au Café des Enfants à Grenoble. Père de deux garçons de 10 et 14 ans, séparés de leur maman depuis 2016, il les accueille en garde alternée. Il est aujourd'hui en couple avec une compagne qui souhaite des enfants. Pudique, mais convaincu par la démarche, il me donne son feu vert 2 mois plus tard pour l'enregistrer. Je lui propose de préparer l'interview, il me dit préférer improviser. Il partage avec vous ses réflexions sur la paternité, et notamment la difficulté de passer du couple conjugal au couple parental. Pas de solution miracle, mais une expérience qui pourra faire écho à la vôtre.
J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans, ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans.
Le fait de devenir parent, pour moi, ça avait été un gros choc dans le couple. Ce qui m'a donné envie de témoigner, c'est quand j'ai vu l'expo, c'est que, en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas, les clés, on n'a pas le mode d'emploi, quoi, pour anticiper ça. À la fois pour anticiper ce que ça nous fait, nous, de devenir parents de manière personnelle et intime, mais en même temps pour gérer comment il faut intégrer ces nouvelles personnes qui sont les parents dans le couple, quoi.
Quand tu dis on n'est pas armé, selon toi, ce serait qui pourrait nous mettre au courant de ça? Parce que est-ce qu'on se dit à la Florence Foresti, une espèce de grand complot des parents qui surtout ne disent pas aux autres ce qui va se passer parce que sinon l'humanité s'arrête, clairement. C'est comme ça qu'on avait commencé l'émission sur le burn-out parental il y a 15 jours. En gros, quand on annonce une grossesse, en général, tout le monde te dit félicitations. Personne ne te dit non mais tu vas trop en chier, ça va être la guerre. Et en même temps, les chiffres, ils sont là. Le fait d'avoir des enfants, c'est un facteur de séparation dans les couples. On fait comment avec ça, quoi?
Ben, on fait comment? J'aimerais bien avoir la réponse, en fait. je crois que je l'ai écouté une fois, ce sketch de Florence Foresti, et je suis à fond d'accord. Enfin, c'est inconscient, mais oui, tout le monde est content, etc. Et nos parents mettent sagement de côté, sagement, je ne sais pas, mais les parents mettent bien de côté tout ce qu'ils ont vécu et tout ce qu'il peut y avoir de problématique dans ça. Et pourtant, moi, j'ai des parents qui se sont séparés quand j'avais 1 an. Ils n'ont pas eu du tout une vie facile avec la parentalité, avec la famille, quoi. Ma famille, c'est comme beaucoup d'autres, il y a plein d'histoires. Donc, j'ai pas forcément envie de régler mes comptes et de donner un côté psychothérapie à ce témoignage, mais en même temps, il manque un côté transmission, quoi, en fait. Comme si nos parents cherchaient à travers nous à résoudre les échecs qu'ils ont eus, en fait. C'est un peu comme ça que je le vis, moi. Il y a un tabou sur la parentalité, les enfants, c'est uniquement du bonheur, quoi. Donc oui, c'en est, mais comment on fait dans un couple pour gérer ça? Ben, j'ai pas la clé, et je trouve que non seulement ça impacte la vie de couple, de la vie des parents, et après c'est déterminant pour après une séparation, c'est déterminant. Moi, dans mon vécu, donc j'ai eu une première histoire avec quelqu'un qui avait des enfants et avec qui on s'est sagement tenu loin du projet familial, en refusant de faire ces projets-là. C'est une histoire qui s'est terminée. Aujourd'hui, je suis de nouveau avec quelqu'un qui n'a pas d'enfants, qui aimerait bien en avoir. Et moi, de mon côté, je sens qu'il y a ce background autour du vécu de couple avec les enfants. Avoir d'autres enfants, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique, quoi?
Selon toi, cette histoire de transmission, ce serait à qui, un petit peu, entre guillemets, d'alerter? Est-ce que ce serait plus les professionnels de santé? Est-ce que ce serait plus les profs, les proches, les jeunes parents? Tu parlais aussi des parents. Est-ce que, eux, entre guillemets, ils pourraient aussi avoir l'honnêteté de transmettre leur histoire? Je sais que nous, là, on travaille avec Coopère Rosemont, donc c'est une association au Québec, à Montréal, qui accompagne spécifiquement les papas, mais du coup, les couples aussi, dans le projet d'enfant. Et ils accompagnent le couple à partir du moment où il y a le projet d'enfant, même pas quand la grossesse est là. Et justement, ils assument de demander au couple de s'interroger sur leur désir d'enfant. Du coup, je trouve que cette démarche, elle est hyper pertinente parce qu'ils disent, bah, des fois, il y a des couples qui repartent et ils disent, bon, bah, on va réfléchir. Peut-être qu'on va prendre 6 mois. Ou alors, on va se redire un petit peu ce sur quoi on est d'accord, ce sur quoi on n'est pas d'accord. Mais moi, j'ai jamais entendu en France qu'il y ait ce genre de service, par exemple. Mais est-ce que ce serait ça auquel tu penses, par exemple?
Oui, par exemple, ça pourrait être ça. Mais ça peut venir de plein d'endroits. Dans la sphère privée, ouais, nos parents à nous, ça pourrait être les amis. Mais pour moi, il y a un tabou. Les amis, ils veulent pas forcément regarder leurs difficultés en face et ils ont pas envie de parler de leurs difficultés. Et ils vont dire comme les parents, quand t'as un enfant, c'est super chouette. Moi, en tant que papa, pour la préparation à la naissance de mon premier enfant, donc l'interlocutrice qu'on a, c'est une sage-femme qui fait la préparation à l'accouchement, pas du tout la préparation à la parentalité. La sage-femme m'a clairement dit, donc ça c'était il y a 14 ans, donc peut-être que ça évolue maintenant, mais bon, vous venez aux séances si vous voulez, mais concrètement, vous ne servez à rien, quoi. Texto. C'était moins le cas pour le deuxième enfant. On était avec une sage-femme qui était beaucoup plus dans la vision du couple et beaucoup moins uniquement dans le côté technique de l'accouchement. On était plus dans la préparation à l'arrivée d'un enfant dans la famille, etc. Elle avait même convié le grand frère à venir. Donc, c'était une autre démarche. Je ne sais pas. Après, moi, je ne suis pas très moteur pour aller chercher de la ressource. Donc, peut-être que je suis passé à côté de choses. Hein. C'est juste maintenant que je commence un peu à m'intéresser à toutes ces questions-là et tirer les fils de ce qui m'est arrivé, en quelque sorte. Je ne sais pas. Moi, j'entends plus parler de la prévention du baby blues ou de comment la maman va gérer l'arrivée de l'enfant que comment le papa y gère ou comment le couple gère ça, quoi. Et je dis ça sans aucune revendication ou quoi. Hein, moi, j'aime beaucoup l'idée de coparentalité et d'équipe. Ce n'est pas une question de revendication, de dire les hommes ceci, les femmes cela. Je ne veux pas mettre de la rancœur ou de la rancune contre la société parce que la société ne fait pas ci ou ça. C'est juste mon expérience, quoi.
En tout cas, on peut être assez d'accord sur le fait qu'on pense encore l'arrivée d'un enfant autour soit de la santé de l'enfant, soit de la santé de la maman, mais que le troisième protagoniste, à savoir les papas, enfin le papa, on n'en parle pas ou peu. On était encore dans les couloirs d'un hôpital la dernière fois, on m'a envoyé une photo, c'est l'unité mère-enfant. On peut quand même se poser la question, à un moment donné, on fait quand même des enfants à deux, enfin la plupart du temps. Et c'est quand même étonnant cette façon d'oublier ou de mettre à l'écart ou de déresponsabiliser 50% de l'équipe parentale, quoi. Et moi, je trouve que c'est ça qui est moteur aussi dans la question de cette exposition-là. C'est de se dire, à un moment donné, qu'est-ce que ces messages-là font au papa en devenir? Quand une sage-femme, qui est comme un professionnel de santé, est amenée à te dire, ben, vous servez à rien. Donc, soit il faut avoir un argumentaire béton, soit il faut se mettre en colère. Mais c'est, voilà, ça envoie quand même un message particulier. On pense à toutes les maternités, toutes les unités qui accueillent des prématurés où il n'y a pas de lit pour les papas, etc. Ou alors un lit de camp. Ça n'encourage pas. Moi, ma question, c'est concrètement pour toi, ça a eu quoi comme conséquence, tu dis, la parentalité dans ton couple? Donc là, tu parles plus de conséquences négatives auxquelles tu ne t'attendais pas forcément.
C'est de voir ma compagne complètement centrée sur le bébé et que le couple devient totalement secondaire. Moi, je me suis toujours interrogé, par contre, sur ce que c'est que la relation. C'est un bon chantier de ma vie, ça. La réflexion sur la relation, comment on est en couple, comment on est en relation avec l'autre. Les hommes, les femmes, qu'est-ce que c'est être un homme, qu'est-ce que c'est être une femme. C'était juste évident d'être parent. Mais comment on allait être parent, je ne me suis jamais posé cette question-là, quoi. Et ma compagne, elle était dans l'évidence et puis pas de question. De toute façon, ces questionnements là autour de la relation, du féminin, du masculin, elle, c'était pas des choses qui la touchaient. Et elle s'est épanouie dans son rôle de maman. Et puis point, quoi. Sans dire qu'elle m'a pas fait de place. C'était pas évident de trouver sa place. Il y a cet enfant, on était un couple, on était deux personnes différentes. Et maintenant, il faut refaire un autre couple avec le fait d'être parent. Et clairement, elle me disait, bah, on verra plus tard. Là, on a autre chose à faire, quoi. Et ben, moi, je pense que non, on ne peut pas voir plus tard, quoi. L'enfant, il est le fruit du couple. Et si on ne prend pas soin du couple dès le début, c'est vraiment le bordel.
Est-ce que tu peux me préciser ce que ça te faisait vivre à toi, cette situation où tu as l'impression que ta compagne, elle est plus que seulement une maman et que t'arrives plus à te reconnecter justement au couple conjugal.
Bah, c'est pas très glorieux, mais il y avait pas mal de jalousie quand même. Après, avec le recul, je crois qu'il y a des choses qui tournent autour du sentiment de servir à rien, tu vois. Ce que j'avais pas compris, c'est qu'on pouvait, comment dire, entre guillemets, utiliser l'enfant pour refaire couple. Je suis resté scotché sur l'étape couple de personnes hors parentalité. Et j'ai vraiment dissocié le côté on est parent ou on est couple. La compagne, elle voulait... l'idée, c'était la famille et le couple familial, quoi. Et moi, j'ai pas trop fait ce switch-là. Enfin, je suis vraiment resté sur le côté interpersonnel du couple. J'ai un peu mis de côté les enfants.
Ce que tu dis là, cette différence entre ce qu'on peut appeler le couple conjugal, à savoir le couple que formaient avant les parents dans leur histoire amoureuse et le couple qu'ils forment aussi en tant que couple conjugal maintenant qu'ils sont parents, qui a une entité en tant que telle, qui a une histoire telle, qui a des loisirs, qui a quelque chose qu'on partage entre adultes, et le couple parental, qui est une réalité qui survit d'ailleurs à la séparation. Le couple parental existera toujours. À mon avis, ça peut parler à plein de personnes qui ont traversé justement cette espèce de paradoxe et d'ambivalence, de se dire « mais j'ai pas envie d'être juste un couple parental, mais comment je fais pour être aussi un couple conjugal ? Qu'est-ce que je fais pour entretenir ça ? Comment je fais en sorte d'équilibrer aussi les deux ?» Comme tu dis, ta compagne aussi, c'est comme si elle se satisfaisait aussi finalement que du couple parental. Et comment on arrive à faire vivre ces deux espaces, quoi, qui peuvent rentrer en concurrence, comme tu le dis aussi, à certains moments, quoi.
Moi, aujourd'hui, je dirais « il faut communiquer, il faut en parler ». C'est pas facile parce que mon fils aîné, il a 14 ans. Donc, je parle de ça avec des souvenirs et avec du recul, avec tout le chemin que j'ai fait depuis. Donc, c'est un peu énorme. Donc, ouais, parler, communiquer et puis prendre sa place. Moi, j'ai pas pris assez ma place. C'est peut-être un défaut aussi des papas en général. La société envoie des injonctions aux femmes pour se préparer à la maternité, beaucoup moins aux hommes pour devenir père. Donc les femmes, elles ont des modèles de maternité, mes modèles de paternité. Bon, mon père, je le voyais une fois tous les 15 jours, et mon beau-père, il était présent physiquement, mais il n'était pas très investi. Et donc je pense que ma génération, on gère la paternité totalement différemment de ce qu'ont pu faire nos pères. Et moi, quand mon premier fils il est né, je venais de me mettre à mon compte et j'avais des déplacements des semaines entières, genre 2 semaines par mois, quoi. Donc pour faire ma place avec un nouveau-né, c'était pas l'idéal. Je pense que ouais, la solution c'est vraiment ça, c'est que les pères ils prennent leur place et du coup qu'il y ait des choses qui se mettent en place pour, comme parent live, pour donner de la parole au père et pour que la société montre que ça existe, la paternité, et qu'il y a quelque chose à faire pour ne pas se prendre la paternité dans la tronche et pour arriver à anticiper ce que ça va faire, quoi. Même si, après, c'est pas possible de tout anticiper. Voilà.
Est-ce que tu penses aussi qu'il y a quelque chose autour de l'importance de valoriser peut-être ce qui se passe à l'intérieur des foyers, valoriser les tâches domestiques, valoriser le soin qu'on donne aux enfants, valoriser aussi toutes ces tâches qui sont somme toute assez contraignantes et répétitives quand on s'occupe d'un tout petit, qui sont souvent faites par des femmes, soit au niveau professionnel, soit au niveau personnel, qu'à un moment donné, les hommes puissent s'en sentir capables et aussi s'en sentir responsables. Il y a un monsieur qui s'appelle... de la Balm, qui fait des ateliers du futur papa, et clairement il fait des ateliers de puériculture spécialement pour les papas, justement pour apprendre ces gestes-là, que l'apprentissage puisse venir aussi entre pères. Parce que ce qui est remarqué aussi, c'est que souvent, comme c'est les mamans qui sont socialisées pour s'occuper des plus petits et prendre soin, elles ont des modèles, elles ont déjà peut-être fait du babysitting, elles ont eu des enfants dans les bras beaucoup plus tôt que les garçons, et du coup elles savent faire, et du coup elles se retrouvent à devoir apprendre à faire à leur conjoint, et directement du coup dans une position entre guillemets d'experte. Et là, on est foutu. Parce que s'il y a c'est un papa qui me disait ça, mais moi j'ai l'impression d'être manœuvre en fait. Et je suis pas à l'aise avec ça. Mais il faudrait aussi du coup que ces positions-là, elles soient pas induites dès le départ. Quand par exemple le papa est pas là pour le premier bain, et ben forcément c'est la maman qui va remontrer, qui va répéter les gestes, et directement on va rentrer dans quelque chose où il y a une personne qui serait le chef et une autre qui exécuterait. Dans le rapport des 1000 jours, justement, qui fait des préconisations pour accompagner les tout-petits du temps de la grossesse jusqu'aux 2 ans, ils disent que c'est indispensable que le deuxième parent, il passe du temps en autonomie et seul. Et sur au moins une journée d'affilée avec l'enfant, comme tu dis, pour en fait juste apprendre à le connaître, parce qu'un tout petit, ça se décode pas en une heure de temps quand on rentre le soir, quoi.
Alors déjà, je voudrais dire que je suis à fond d'accord avec ce que tu dis sur la position d'experte de la maman. Mon ex-femme, elle est auxiliaire de puériculture dans une crèche. Elle a fait des efforts, elle m'a valorisé en tant que père, mais sur plein de choses, elle peut pas non plus faire autre chose que ce qu'elle est, quoi. Ouais, il y a du job, là. Sur ce truc-là, à préparer les pères à faire des choses qui sont aujourd'hui quasiment exclusivement réservées aux femmes, ça, c'est vachement important. Créer des lieux de parole entre pères, entre hommes, oui. Pas que sur la parentalité, mais sur la parentalité, c'est important. Moi, je parlais de ma compagne actuelle qui n'a pas d'enfant, qui aimerait en avoir. Moi, dans ma position, là, dans mon questionnement, à savoir si je suis capable d'aller dans ce projet-là, je vais aller chercher des hommes qui ont déjà fait ça, qui ont déjà recréé un deuxième noyau familial. Enfin, sixième leçon, là, que j'ai compris, c'est ça, c'est que je vais aller chercher des gens avec qui discuter, quoi. Ça, c'est une leçon aussi professionnelle. Je suis indépendant. J'ai appris en 10 ans d'indépendance comment le réseau est important et comment aller parler à d'autres gens est super important. Et donc, du coup, je pense que dans ce domaine-là aussi, c'est important d'aller échanger entre pairs.
Et sur cette question de prendre sa place, toi, avec le recul, et puis là, maintenant, en tant que papa, comment tu la prends, ta place ?
Ben moi, concrètement, ce que je vis actuellement avec mes enfants, c'est 50% du temps avec eux. Et oui, ce temps à plein temps, avec eux tout seuls, ça a été super bénéfique pour moi, quoi. J'ai pris mes décisions, même si avant, je n'étais pas exclu des tâches ménagères, je faisais beaucoup la cuisine. Mais par exemple, le soir, je faisais la cuisine, mais enfermé tout seul dans la cuisine. Maintenant, je fais la cuisine, un peu isolé aussi dans ma cuisine pendant que mes garçons ils sont à leur tâche. Mais par contre, c'est moi aussi qui ai une oreille qui traîne pour les gérer. Et... ouais, ça, ce temps seul, il est à mon avis déterminant. Ouais. Et je pense que ça devrait être bénéfique pour la maman, pour le couple aussi. Je sais qu'avec mon deuxième fils, j'ai fait différemment. La confiance en soi, elle vient avec la compétence, quelque part. Et donc, du coup, j'étais vachement plus présent et investi avec le deuxième enfant. Donc, ça se ressent quand même beaucoup dans la relation avec mon fils aujourd'hui. Mais je pense que oui, c'est ce temps-là, pour acquérir cette confiance par la compétence, par le faire, par le temps passé, ça donne une légitimité pour construire le couple aussi, quoi. On ne peut pas dire « je voudrais que ça soit comme ci, je voudrais que ça soit comme ça » et puis rien faire. Et je pense que j'ai sans doute trop fait ça. Quand on est face à un changement, on connaît quelque chose. Il y a un truc qui arrive, qu'on ne comprend pas. Le réflexe, c'est de se tourner derrière en disant « avant c'était bien, pourquoi ça change ?» Donc pourquoi on continue pas à faire comme on faisait avant ? Je pense que j'ai été dans cette attitude et je pense qu'il faudrait, pour le bien-être des gens, c'est-à-dire de l'homme, de la femme et du couple, qui est une autre entité en plus des personnes, il faut arriver à dire « Ok, ça change, c'est pas forcément de la faute de l'autre, qu'est-ce que je peux faire pour accompagner ce changement et pour me sentir mieux dans ce changement ?» Du coup, c'est une démarche d'introspection et de remise en question qui n'est pas forcément facile, quoi.
On parlait d'un peu des ingrédients qui pourraient amener à mieux vivre ce changement, ce tsunami qui est l'arrivée d'un enfant dans la vie d'un couple. Le regroupement pour la valorisation de la paternité au Québec, il propose des petites fiches-outils et puis quatre grands thèmes justement pour aborder la coparentalité de façon sereine, qui parle de l'importance de la communication, de la reconnaissance de sa légitimité en tant que parent par l'autre parent et par les enfants, l'importance aussi de la cohérence parentale et de partager à minima un socle de valeurs commun, et puis la question aussi du partage des tâches. Donc voilà, sur ces quatre points, Clément, on en échangeait tout à l'heure en off, et tu me disais, à mon avis, ça ne suffit pas.
Non, ça ne suffit pas. Tu parlais de fiche-outil, ouais, super. Je pense que c'est la base, c'est juste le début, en fait, de la gestion du tsunami. Comme je te disais, moi, je suis entrepreneur, Les outils, je connais, j'en ai utilisé des dizaines. Et en fait, un outil, s'il n'est pas incarné, s'il n'a pas une utilité profonde, on l'abandonne. On va commencer par le plus simple. Partage des tâches, à mon avis, c'est le truc de base, facile à mettre en place. Il n'y a pas trop d'implications émotionnelles. Je rigole, je m'arrête parce que Florence me regarde avec des gros yeux et rigole. Ouais, c'est peut-être pas simple pour tout le monde. Pour moi, c'est juste évident. La cohérence aussi. Même la première personne avec qui il faut être cohérent, c'est avec soi, quoi. Et effectivement, si on est cohérent avec soi et cohérent dans le couple, ça peut aider. La communication, là, on, à mon avis, on monte d'un étage. C'est un petit peu plus difficile et c'est pas donné à tout le monde de communiquer. C'est également une base qui devrait être partagée par tout le monde et qu'il faudrait apprendre à tout le monde, notamment la communication non violente. Et alors la reconnaissance, c'est peut-être le truc le plus, difficile pour moi, d'aller reconnaître à l'autre ce qu'il est, quoi. Pas juste l'étiquette qu'il a sur le front ou le rôle qu'il devrait porter sous prétexte que ton père ou ta mère a été comme ci ou comme ça et donc ton mari ou ta femme devrait être aussi comme ci ou comme ça. C'est pour ça que je dis ça suffit pas. Pour moi, ce truc de reconnaissance, ça ouvre la porte vers des trucs vachement plus intimes et profonds qui sont à mon avis hyper complexes à démêler, à identifier. C'est tout ce que ça fait en nous psychologiquement et émotionnellement. Et ça fait appel à l'enfant qu'on a été, c'est la vision de la société qu'on a. Enfin, c'est des trucs hyper profonds qu'on va projeter dans le couple, qu'on va projeter dans notre manière d'être parent. C'est un vaste chantier, quoi. Ok, il y a des outils, mais pour ce chantier-là, moi, je n'ai pas d'autre outil que l'introspection, la connaissance de soi, le chemin de vie, en fait. On apprend des choses en vivant. Moi, j'ai 43 ans, mon fils, il a 14 ans. Ce que je dis aujourd'hui, si mon ex-femme, elle était là, elle dirait que je n'avais pas forcément ce discours-là il y a 5 ans, 6 ans, 10 ans, quoi. Donc oui, alors moi, je suis clairement un militant de l'introspection, de faire le bien à l'intérieur de soi pour après diffuser le bien dans la société. Et donc, ça passe aussi par la parentalité. C'est un domaine où il faut s'introspecter, quoi. Forcément. Et il faudrait que nos parents nous disent qu'on va avoir à faire ce chemin-là. Il faudrait qu'on nous le dise, qu'il va falloir se remettre en question et s'interroger et travailler, quoi. Voilà.
J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais...
Le message est clair. Parents, levez l'omerta sur la vie de famille. Parlez du côté casse-gueule de l'affaire. Pas pour dissuader, mais pour prévenir les grosses déconvenues, le choc frontal. Plus on idéalise, plus on tombe de haut. En France, des visites préconceptionnelles existent. Elles sont assurées par les professionnels de santé et remboursées. Elles sont surtout focalisées sur la santé des futures mères, mais rien ne vous empêche d'en faire un prétexte pour échanger en couple et pour poser vos questions auprès de la personne qui vous reçoit et qui pourra vous orienter. Père, futur père, beau-père, n'hésitez pas à vous parler. On vous mettra dans le descriptif du podcast un lien vers un groupe de parole en ligne, ainsi que toutes les ressources citées, notamment les petits mémos de nos amis québécois du RVP. Merci à l'équipe du Café des Enfants, Pascal, Salomé, Stella et Isabelle, de nous avoir accueillis pour cet enregistrement. Merci à Vincent Romance pour le mixage, les interludes sonores et le mastering. Nous vous souhaitons une bonne fin d'année et nous vous retrouvons pour un prochain épisode de Story de Parents en janvier avec Mathieu et Nicolas, qui nous parleront des groupes d'échange et d'entraide qu'ils ont créés à la naissance de leurs enfants avec des futurs et des jeunes papas. De quoi vous donner des idées, on l'espère. Si ce témoignage vous interpelle, vous ressemble ou vous questionne, si vous voulez vous aussi en tant que père, mais aussi beau-père, mère, grand-parent ou enfant, partager votre expérience autour de la paternité, écrivez-nous à parentlive.fr@gmail.com et sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. À très bientôt pour un nouvel épisode des Stories des Parents spécial paternité. On vous embrasse.